Luigi Pirandello, ironie de la vie et de la mort, le courage civique. En appelant les hommes tigres, hyènes, loups, serpents, singes et lapins, Bruno Celezia craignait de faire injure à ces animaux qui vraiment ne le méritaient pas, puisque chacun suivait docilement sa propre nature et n'agissait que conformément à elle. Tandis que l'homme, non, l'homme est faux. Donc des crachats à la face et des coups de pied autre part, voilà tout ce que méritait l'homme. « Je le sais, moi, ce que j'ai là-dedans, » disait-il en se frappant l'estomac. « Bah, y a toi, Bruno, y a des boyaux. Y a l'enfer, canaille !» criait Bruno. Il aurait voulu que sa bouche fut un cratère de volcan, le cratère de l'Etna, pour vomir sur l'humanité tout le feu qui grondait en lui. Toutefois, en assistant un beau jour sur la place de l'Hôtel de Ville à la distribution solennelle des récompenses honorifiques accordées au courage civique, Bruno Celezia, à part soi, ne pouvait s'empêcher de convenir que c'était une belle et digne fête. Intrigant de premier ordre, le syndic, oui, mais homme de vrai talent, orateur né. Et plus d'une fois, pendant le magnifique discours qui exaltait les vertus natives du peuple sicilien, rappelant les actes héroïques accomplis par lui, Bruno Celezia avait senti courir dans ses moelles un frisson électrique. Et de ses doigts agités, il poussait dans sa bouche et mordillait les poils de sa grosse moustache et la pointe de sa rude barbe crépue. De temps en temps, il passait son autre main sur le pan lustré et verdi de sa veste, dans la constante préoccupation qu'on ne lui attachait derrière avec une épingle quelques bouts de papier pourvu d'un inconvenant quolibet. Certainement, depuis quelques mois, cette farce stupide était à la mode. Sale humanité! Bravissimo! La seconde exclamation était à l'adresse du syndic, qui rappelait en ce moment ce que les gens de Palerme avaient su faire dans les journées de leur glorieuse délivrance à l'entrée de Garibaldi. Le discours du syndic, terminé au milieu de bruyants applaudissements, auxquels Bruno, enthousiasmé, n'avait pu se retenir de joindre les siens, la distribution des récompenses commença. Sur la vaste terrasse du marbre de l'Hôtel de Ville, où, avec le syndic tout en âge, se tenait fort placide, l'éventail en main, les conseillers municipaux, leurs femmes et les notables de l'endroit, un très beau jeune homme, brun, vigoureux, aux yeux hardis, se présenta le premier. Il s'était jeté à deux reprises dans une maison en flammes pour sauver une vieille femme et un enfant. La foule l'accueillit avec transport. « Vive Sgrammeri! Vive Carlucia Sgrammeri !» Quelqu'un fit observer que ces messieurs du conseil municipal auraient mieux fait de constituer un corps de pompiers, ce dont le pays manquait cruellement, et d'en nommer membre ce brave Carducio, qu'il avait si bien mérité, plutôt que de lui décerner cette médaille, dont en fin de compte il ne saurait que faire. Pauvre débile de portefeuille, qui suait tout le long du jour et pliait écrasé sous les sacs de charbon pour gagner quelques misérables centimes. « Tu es beau !» grommelait à part soi Bruno Celezia, en l'admirant. « Mais avance un peu en âge, cher ami, et tu verras quel canaille tu deviendras toi aussi, quel coquin de marque. Vivat, vivat !» Et il applaudissait avec les autres en attendant et passait toujours la main sur les pans de sa veste. Chacun à son tour, les quatre autres héros du jour, en se présentant pour recevoir leur médaille, furent les objets des acclamations de la foule. « C'est beau pour l'instant, » commentait Bruno entre ses dents, au milieu de la cohue. Des gredins, bon, des gredins, près. Oh, l'humanité tout entière, oh, dégoûtante. Vivote, vivote. La distribution terminée, la foule commença à se disperser. Bono Silesia erra encore quelque peu, circonspect et dédaigneux au milieu de ce fouillis de gens. Il admirait les lampions de couleurs diverses préparés pour l'illumination du soir et de temps en temps tordait ses lettres. Bon, si le vent du nord s'en mêle, et il levait les yeux vers le ciel menaçant qui de minute en minute devenait plus obscur. « Retournons-en à la maison, » se dit-il résolument à un certain moment. « Ce pays de chiens est capable de croire et de proclamer que la fête aura été gâtée par la pluie, tout simplement parce que je ne me suis fait voir aujourd'hui sur la place. » Il aperçut de loin cette figure de malheur, son père, qui lui avait causé tant d'amertume et qui peut-être cherchait là, dans les poches du prochain, le moyen de retourner pour la troisième fois en prison, dont il était certes sorti que depuis peu de temps. Et Bruno tourna le dos, tout honteux, et pressa le pas pour rentrer chez lui. On dit que les grenouilles, pensait-il, en s'en allant, ont l'habitude de pousser l'hiver dans la boue des fossés. Pour mon père, c'est pire. Il s'enfonce dans la fange de la vie pendant les quatre saisons, d'un bout de l'année à l'autre. Il avait fait tout au monde pour le sauver la première fois. Il lui en avait coûté les yeux de la tête. Maintenant, il ne voulait plus le voir, même de loin. Mais après tout, avait-il une fois le courage de lui dire d'un son père, « Je n'ai pas été le seul à te déshonorer ton beau nom. Pense à ta femme, plutôt qui depuis tant d'années t'outrage publiquement. » Et Bono Silesia s'était mordu une main jusqu'au sang pour ne pas répondre parce que sa femme... Mais avec tous, non, non, avec un seul. Il ne l'avait pas tué, estimant que son amant serait pour elle un pire châtiment. Fermement persuadé qu'il ne tarderait pas à l'abandonner et à la jeter à la rue comme un paquet d'ordures. Et au lieu de cela, malheur de malheur, tout le contraire. Ces deux êtres vivaient heureux, maritalement, considéré et estimé par tout le monde. Cochon de pays! Et ils avaient trois enfants, si gentils. Pauvres innocents, de petits bâtards. Cette créature n'avait pas su lui en donner d'enfant à lui, pas même un seul qui eût été légitime, celui-là. Il ne se serait pas senti si isolé maintenant. Il n'aurait porté envie à personne. Mais après tout, peut-être était-ce mieux ainsi. Jamais rien ne lui avait réussi dans la vie, jamais. Et peut-être aussi que des enfants, s'il en avait eu, qui sait, quel chagrin, quelle douleur, quel tourment. Destin moqueur. Destin, destin, oui, comment ne pas y croire? Qu'avait-il donc fait pour lui, pour être ainsi le lieu de toutes les flèches, comme fils, comme mari, comme citoyen, comme ouvrier, mal vu de tous, fui par tous, parce que, pour comble, l'on disait qu'il avait le mauvais œil, et au lieu d'être plaint pour ses infortunes domestiques, bafoué. Oh, c'était vraiment trop. Qui sait, quelle preuve de la résistance humaine veut expérimenter sur moi cet immonde marâtre qui s'appelle la nature. Il ne s'était jamais lancé dans de hasardeuses spéculations, et pourtant il était toujours sorti avec dommages et railleries de celles peu nombreuses et sûres qu'il avait tentées. Tant de gens étaient enrichis en prenant à l'entreprise l'entretien de la jetée du port. Alors il avait voulu se mettre lui aussi, et à grands coups de mer à peine construite, la moitié d'une jetée avait été enlevée, oui, ces blocs de pierre assemblés, et la mer les avait emportés, sans s'inquiéter de sa peine, comme autant de croutons de pain. Bravo, Sélésia! Est-ce que je m'en soucie, moi? Pouvait-on lutter contre cette grosse bête de mer? Et il était devenu un pauvre gueux. L'air par charité, il avait trouvé un petit poste de gratte-papier dans une banque, mais il fallait toute sa patience pour y rester. Sa calligraphie ne plaisait pas au chef de la maison et il était sans cesse après lui à ce sujet, lui faisant les plus dures observations. Ouf, on crevait de chaleur ce jour-là. Et lui se promenait avec ce veston d'hiver encore sur le dos, faisant le beau. Il en avait tant vu que l'un de ses yeux de désespoir, sans doute, s'était mis pour son compte à regarder de travers. Il ne s'en serait pas autrement soucié si ce strabisme, croissant de jour en jour, ne lui avait rendu plus difficile les exercices d'écriture que lui imposait le directeur. Réfléchissant ainsi sur ses infortunes, Bruno Sélésia se rendit chez lui. Il habitait à l'extrémité de la ville, du côté du couchant, là où la plage tournait sous le plateau argileux pour décrire une longue et légère courbure. Les quelques maisons qui s'alignaient là, très proches de la mer, n'avaient pas vu sur la ville qui était disposée en demi-cercle dans une autre anse de la plage. Et ici, dans ce petit coin de terre, était la paix continuelle, comme si le spectacle infini de la mer l'eût stupéfié, tandis que là, c'était sans répit et sans trêve la fièvre du trafic, l'odieuse guerre du lucre. Il dut se presser au dernier pas, car la pluie commençait à tomber aigrue. La mer était agitée, trouble, et se soulevait par places sous l'imminente menace du ciel chargé d'énormes nuages noirs. Les vagues se gonflaient, s'entrechoquaient, et ne réussissaient pas à se briser. Seule une courte écume orageuse se montrait par instants, çà et là, bouillonnant sur les crêtes hérissées. « Oh, il veut faire de l'orage !» soupira Bruno, regardant derrière les vitres de son petit balcon. Bientôt, en effet, le ciel disparut comme engouffré, et pendant quelques moments, ce fut une obscurité étonnante, épouvantable. Il semblait que tout à coup la nuit fût venue. De temps en temps, une rafale courait rapide comme l'éclair, sur la plage, soulevant un tourbillon de sable. Le premier coup de tonnerre éclata enfin, et ce fut comme le signal de la tempête. Bruno Sélésia ferma les volets, alluma une lumière, et alla s'asseoir devant son vieux bureau pour reprendre la lecture quotidienne d'un gros bouquin concernant la découverte de l'Amérique. À chaque nouveau coup de tonnerre, il haussait les épaules et allongeait le cou. « Allons-y, bon Dieu, mais bombardons !» Ces malheureux lampions de toutes couleurs lui revenaient à l'esprit, tout prêts pour l'illumination, et il riait sous cape. Il lisait depuis 1 heure environ, quand il lui parut entendre, au milieu du tumulte incessant de la mer, comme des cris d'horreur sur la plage. Il alla au balcon, ouvrit un volet, et tout d'abord, un éclair vint l'aveugler. Le spectacle était effrayant. Et puis, oui, là-bas, qu'était-il arrivé? Il y avait un rassemblement de gens qui se garantissaient comme ils pouvaient des torrents que leur lançait la mer furieuse. Ils criaient, pour sûr. Mais qu'était-il arrivé? Il prit son chapeau et courut pour le voir. Ça et là, sur la plage, au milieu de ces horribles et bruyantes ténèbres, tremblait une faible lumière, préservée par un manteau ou par un châle. Une grande foule était accourue, hommes et femmes, tous attendant anxieux et tremblants la subite lueur d'un éclair pour entrevoir sur la mer une barque impétueusement assaillie par les flots et le vent déchaîné. Quelques-uns se tuaient à répéter qu'il n'y avait personne sur cette barque, qu'elle avait été prise par la mer sur la plage, emportée de là, de la jetée où elle était tirée à sec. D'autres, au contraire, assuraient et juraient y avoir aperçu un homme qui gesticulait ainsi et ainsi, et ils imitaient ses gestes désespérés. Et d'autres encore rapportaient que beaucoup de canots étaient sortis du port dans la journée, allant au bain de Saint-Léon, parmi lesquels il pouvait bien s'en trouver un qui, au retour, eût été surpris par la tempête. La voilà, la voilà! Criait-on soudain de tous les côtés, un long éclair venant à traverser le ciel de sa livide fulguration. Mais aussitôt le tonnerre roula terrible et couvrit les cris de la foule. Dans l'obscurité devenue plus profonde, la tempête parut plus horrible et terrifiante encore. Le retentissement finit, les commentaires recommencèrent. Oui, il y avait un homme sur la barque. Il appelait au secours, au secours. Or tous, cette fois, l'avaient vu. Et qui y va? Cria Bruno Celezia. Les héros de ce jour, où sont-ils? Mais plus on sentait la nécessité de faire quelque chose, plus le courage manquait à chacun pour prendre l'élan. Et ils criaient au secours à plein gosier, comme si le secours n'avait pas dû venir d'eux-mêmes. L'esprit de dévouement rayonnait de tous ces êtres et semblait s'exaspérer, cherchant désespérément dans cette foule hésitante et terrifiée l'homme qui devait l'accueillir et s'élever au sublime. À l'appel ironique de Celestia, quelqu'un s'écria du milieu de la foule: « Ben voilà, qu'on me donne une barque! » Et ce frayant passage, presque violemment, Carluccio Selgambri s'avança résolu et prêt à affronter ce nouveau péril. Aussitôt, Celezia, transporté, lui jeta les bras autour du cou et lui mit un baiser sur le front, en s'écriant: « Enfant de Dieu, mais non pas toi, tu ne dois pas y aller. Allez ici à moi la barque, j'y vais, moi !» Et il commença à se dévêtir avec furie. Sgambri s'y opposait. « J'y vais, moi !» répétait Bruno avec plus d'ardeur encore, s'imposant à la foule. « Que personne n'essaie de m'en empêcher. Va-t'en, toi. Tu as gagné ta médaille. C'est mon tour. Laissez-moi, vous dis, je sais nager. Je nage très bien. La vie pour moi n'a plus de prix. Laissez-moi aller. » Un vieux marin apporta en courant une bouée de sauvetage attachée à un long câble. D'autres, pendant ce temps, avaient tiré sur la plage une petite barque. Bruno Celezia sauta dedans, tout nu. Mais à peine la barque lancée dans la mer, qu'une vague furieuse l'enleva et la chavira. Ce fut un cri d'horreur. Bruno Celezia avait disparu, englouti dans les ténèbres et dans les flots. « Largue, largue » criait-on au marinier qui tenait le câble. Maintenant, dans cette angoisse redoublée, l'attente d'un nouvel éclair se faisait plus vive, plus frénétique. Et il semblait que le ciel le fît exprès. C'était une obscurité et un fracas à vous ôter la respiration. Tous, pour se soustraire de quelque façon à cette horrible anxiété, auraient voulu s'atteler au câble qui se déroulait peu à peu de lui-même, comme une chose vivante à la tremblante lueur des lumières abritées par les manteaux. « Largue, largue, laisse-le aller !» Un éclair. « le voilà !» criait-on de nouveau dans l'emplée subite clarté. On avait aperçu Bruno, là, près de l'autre petite barque. L'anxiété devenait une oppression physique. « Il le sauvera, il le sauvera !» Les femmes sanglotaient et les hommes agités, frémissants, leur imposaient silence, comme si dans cette cruelle incertitude, cela eût pu être bon à quelque chose. À un certain moment, il sembla que le câble, là par terre, ne bougeait plus. Le marin le prit en main, attendit un instant, puis cria en pleurant au comble de la joie, « Il tire dessus ! Amen, amen !» Tous se précipitèrent pour saisir le câble, jubilant, exultant. Un autre éclair. « Le voilà, hardi, hardi, il vient, hurrah, hurrah !» Et peu après, la petite barque conduite par Bruno Celezia vint heurter la plage. « Sauvé, sauvé, il est là, dans la barque, tirez-le, il respire encore !» Ce fut un vrai triomphe, mais quand la foule put reconnaître le naufragé... Il faut convenir pourtant que parfois le destin, railleur, se surpasse en combinant de ces situations qui, même pour l'homme le mieux disposé et le plus fermement préparé, a opposé le dédain et la moquerie à toutes les contrariétés de l'existence, lui rend impossible d'éclater de rire. Bruno Celezia avait sauvé l'amant de sa femme. Luigi Pirandello, traduit de l'italien par M.H.D.